Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Bonjour Pierre Rigaud, merci d'être avec nous ce matin dans Vos Animaux.
Bonjour, avec plaisir.
Pierre Rigaud, vous êtes donc naturaliste, vous êtes également administrateur de la SFEPM, c'est la Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères. Depuis 9 ans, cette association organise chaque année en France le Printemps des Castors. C'est une manifestation qui a pour objectif de découvrir le castor et cette année, une petite nouveauté, on a aussi envie de faire découvrir au grand public tout l'environnement qu'il y a autour des castors. Quelle est la situation des castors en France ? Se portent-ils bien ou mieux même ?
Ils se portent mieux qu'il y a quelques décennies. Autrefois, c'était absolument catastrophique puisqu'ils ont tout simplement failli disparaître du pays et même de l'Europe entière. Et figurez-vous que c'est un des mammifères qui a été protégé en premier par la loi au tout début du XXe siècle, en 1907, alors qu'il n'en restait que quelques-uns dans le sud-est de la France, dans la basse vallée du Rhône. À partir de là, dès lors qu'on les a protégés, ils sont revenus peu à peu, et puis il y a eu aussi des programmes de réintroduction, par exemple sur le bassin versant de la Loire ou dans le nord-est de la France. Et aujourd'hui, ils sont présents dans peut-être, on va dire, un quart, un tiers du territoire.
Ils sont, quel est l'environnement dans lequel ils aiment bien vivre ? On imagine des rivières, mais qu'est-ce qu'il leur faut plus spécifiquement ?
Alors quand on pense castor, on pense arbres, et donc il faut qu'il y ait des rivières, des étangs, même des marais, mais avec des arbres, des buissons, en tout cas des végétaux ligneux. Parce que leur truc à eux, évidemment, c'est de ronger, et pas pour manger le bois, on croit souvent qu'ils mangent du bois, mais en fait s'ils ont besoin d'arbres, c'est parce qu'ils sont adaptés à ça pour manger l'écorce et les feuilles. Alors il y a la technique de la girafe avec un long cou, n'est-ce pas, pour atteindre les feuilles,
ouais.
Il y a la technique du castor, c'est la technique du bûcheron. Donc ils coupent des arbres, et alors on les trouve donc dans des rivières quelle qu'elle soit, dès lors qu'il y a suffisamment à manger au bord, c'est-à-dire donc des végétaux ligneux, et puis aussi un petit peu de tranquillité, parce que on peut certes les trouver jusqu'au cœur des villes, par exemple dans le centre-ville de Lyon, il y a des castors qui passent, mais là où on les embête quand même pas trop, et là où ils ont des petits refuges, et puis des fourrés, des arbres, et puis toutes sortes de milieux dans lesquels ils peuvent se cacher, même si c'est près des humains.
Vous parlez de la technique du bûcheron, c'est vrai qu'ils ont des capacités étonnantes. Ils peuvent abattre des arbres qui ont une dimension assez importante.
Ah oui, il n'y a pas de taille limite, alors ça leur prend longtemps. Ils peuvent s'y mettre à plusieurs, ça peut prendre plusieurs semaines, et à la fin, ils arrivent à venir à bout d'arbres gigantesques, en les rognant petit à petit. Tout ça pour manger de l'écorce et des feuilles, donc c'est assez amusant. Et puis aussi, ils se servent des branches. Une fois que l'arbre est abattu, ils le découpent, ils le débitent en fait, puisqu'ils s'en servent aussi pour construire ce qu'on connaît tous, au moins dans l'imagerie, c'est-à-dire les barrages et les huttes qui sont faites uniquement avec le bois qu'ils ont coupé. Donc rien ne se perd dans ce qu'ils coupent finalement. Ils font même des litières à l'intérieur de leur terrier ou de leur hutte qui est faite en petits copeaux de bois qu'ils ont découpés et qu'ils ont amenés comme ça en passant sous l'eau et qu'ils débitent à l'intérieur de leur terrier pour que le bois soit sec. Donc il y a vraiment toutes les subtilités et tous les usages possibles du bois chez les castors.
Oui, ils sont extrêmement bien organisés. L'habitat du castor est aussi assez étonnant.
L'habitat au sens...
l'endroit
j'étais sur les milieux naturels, pardon.
Où il vit.
Absolument. Et sa hutte, c'est un assemblage vraiment très bien fait avec une entrée qui est sous l'eau et qui a pour but de lui permettre d'être à l'abri des prédateurs, de ces rares prédateurs naturels qui sont plus guère nombreux par chez nous, puisque ce sont les grands carnivores qui pour la plupart ont disparu. Aujourd'hui, ce sont les chiens d'ailleurs, certains chiens parfois, et c'est surtout d'ailleurs la voiture, le prédateur pas naturel du castor aujourd'hui. Donc la hutte ne suffit plus pour le protéger, mais ils ont une capacité à construire en effet et à bâtir notamment ces barrages, et ce qui permet à l'eau de monter un petit peu en amont du barrage, parce qu'on se demande toujours souvent
pourquoi construit-il des barrages.
Et voilà, c'est la question que vous venez me poser.
Exactement, vous m'avez devancé, Pierre.
En fait, les castors ont besoin d'être en sécurité avec une eau qui soit suffisamment profonde, tout simplement pour pouvoir plonger, pour échapper à leurs prédateurs. Sur la terre ferme, ils sont un petit peu pataux, franchement. Par contre, dans l'eau, ils sont extrêmement agiles et ils s'enfuient directement dans l'eau dès qu'ils se sentent menacés. Et donc, si la rivière n'est pas assez profonde, ils font un barrage tout simplement pour monter le niveau d'eau. Et c'est pour ça que souvent, en fait, ils ne font pas de barrage. Et ils en font des qui peuvent être tout petits ou qui montent simplement l'eau de quelques dizaines de centimètres. Et puis des barrages beaucoup plus impressionnants. Et c'est cette capacité à
ce sont quand même des ingénieurs des rivières et des forêts, hein, ces castors.
Absolument, et c'est ce qui les rapproche peut-être des humains, puisque c'est une des rares espèces animales qui modifie son environnement en remontant un petit peu le niveau de la rivière, en coupant des arbres et donc en permettant un développement différencié de la végétation, toute une dynamique de la végétation sur les berges. Donc la rivière se transforme d'une façon positive et dynamique juste par l'action de ces animaux.
Ils vivent en famille ?
Ils vivent en groupes familiaux, un couple avec ses petits et les jeunes de l'année précédente, donc un groupe de 4-5 castors qui se partagent un territoire de 500 mètres à 2-3 km de linéaire sur une rivière. Et donc, ça permet de rappeler que les castors ne pullulent pas. On peut craindre des fois en se disant « ils vont bouffer tous mes arbres, ils vont tout faire tomber ». Non, les castors sont territoriaux. Chaque famille défend son petit territoire contre les autres familles de castors. Enfin, ça se fait très pacifiquement. Et ils ne pullulent jamais. Ils ne sont jamais très, très nombreux.
Et ils défendent justement leur territoire avec des marquages assez spécifiques.
Oui, le castoreum. On a souvent entendu parler du castoreum. C'est en fait une substance qui est produite par une glande que les castors déposent au bord de l'eau. Alors, au nez humain, on peut la sentir. Ça sent comme...
Ça sent le goudron un peu.
Ça sent le goudron, ouais. On la sent à quelques mètres et c'est assez invisible. Et ça joue un rôle dans la communication entre castors. Ça et d'autres glandes et d'autres substances qui font que les castors communiquent comme ça, même sans se voir.
Ils déposent un peu cette substance sur des pierres, sur des petits endroits qui sont propices finalement à démontrer que là c'est chez eux et qu'il ne faut pas venir sur leur territoire.
Exactement, ou en grattant un petit peu le limon, le sable au bord de l'eau pour faire un petit monticule et déposer ça dessus. Et ça leur permet aussi de savoir s'il y a des mâles, des femelles dans le coin, quel est l'état des autres individus en termes de reproduction. Enfin, il y a tout un tas d'informations qui bien sûr nous échappent à nous.
Alors, trop souvent, on confond le castor avec le ragondin. Comment arriver à les différencier pour les gens qui ne sont pas, comme vous, des spécialistes des castors ?
Alors, en théorie, on peut se dire que c'est très facile, puisque les castors ont bien entendu la queue plate et que les ragondins ont une queue cylindrique. Sauf que lorsqu'ils nagent, on ne voit pas vraiment ça. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qu'on peut se dire, c'est que les castors sont très discrets et quand même très peu nombreux. Donc, si on voit un animal qui a tendance à avoir l'air d'un castor, c'est plutôt un ragondin. On observe quand même rarement les castors parce qu'ils simplement ils sortent plutôt la nuit. Les castors sont en fait plus grands. Les ragondins, ça pèse 5 kilos, voire pour les plus grands, une petite dizaine. Mais les castors, ça peut aller jusqu'à 20, voire 25, voire 30 kilos. Donc c'est vraiment très grand. Si on compare, c'est le poids d'un chevreuil. Évidemment, c'est pas exactement la même silhouette. Mais le castor est en fait un très grand animal, certes, sur pattes.
Les ragondins font d'ailleurs aussi beaucoup plus de dégâts sur les berges que les castors, non ?
Alors, c'est difficile et sensible ce sujet parce que les ragondins font effectivement des trous dans les berges qui parfois peuvent être gênants quand il s'agit de digues ou d'ouvrages humains. Donc, ce n'est pas vraiment un dégât écologique, mais c'est une gêne qui peut être réelle dans certains cas. Les castors aussi font des terriers finalement même plus volumineux, sauf que le ragondin est classé parmi les nuisibles et le castor est classé parmi les espèces protégées.
Alors, le printemps du castor, donc, qui débute actuellement, a pour objectif d'apprendre à mieux connaître cette espèce de castor, mais aussi les autres espèces qui vivent dans le même environnement. Quelles sont-elles, Pierre ?
La loutre d'Europe. La loutre d'Europe était aussi, comme le castor, une espèce...
Qui fait son retour.
Oui, qui fait son retour, qui avait aussi failli disparaître pour les mêmes raisons. On les éliminait, on les tuait, notamment pour leur fourrure, parce que ces animaux aquatiques ont une fourrure épaisse. La loutre revient, elle c'est un carnivore qui mange essentiellement des poissons. Il y a aussi des tas d'animaux qui sont totalement inconnus et qui vivent dans ces milieux, par exemple les musaraignes aquatiques. Alors là, on est sur le gabarit 10
grammes.
Oui,
là, c'est pas la même chose.
Il y a des campagnols amphibies. Enfin donc, en fait, il y a plusieurs mammifères qu'en général, on ne connaît pas, mais qui forment tout cet écosystème des rivières. Et quand on parle des castors et de protéger les castors, c'est aussi pour parler des rivières, de protéger l'ensemble des rivières et de tous leurs habitants.
Les castors sont assez sensibles à la pollution des eaux, j'imagine.
Alors,
peut-être moins que les loutres.
Peut-être moins, parce que comme les castors sont herbivores, ils accumulent moins de toxines en mangeant des arbres. Par contre, les loutres qui mangent des poissons se contaminent parce que les poissons eux-mêmes accumulent beaucoup de toxines qui sont les pollutions d'origine agricole et les pollutions d'origine industrielle qui sont encore très présentes dans les rivières et dans les cours d'eau en général. Donc, c'est aussi une menace sur les rivières et sur l'écosystème des milieux aquatiques en général.
Alors, puisque ce printemps des castors organisé par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères a pour objectif d'amener le grand public à découvrir ces animaux, comment ça va se passer, comment on s'y prend, parce que si on se promène sur le bord d'une rivière, on ne va pas forcément tomber nez à nez avec une loutre ou un castor.
Non, moi-même qui passe beaucoup de temps au bord des rivières, ça m'arrive rarement de tomber nez à nez. Mais on voit
des traces.
On voit leurs traces et s'agissant du castor, c'est quand même très très parlant de voir toute cette activité d'ingénieur qui est assez facile à voir. Alors le printemps des castors, c'est en fait une série d'animations, d'événements qui sont proposés dans les différentes régions de France. Donc il y a un site internet qui regroupe tout ça et on peut voir près de chez soi quelles sont les animations qui sont proposées et des gens vous emmènent sur les traces de ces animations.
C'est le site de la SFEPM, je le précise, puisque si vous êtes intéressé pour aller découvrir ces animaux, n'hésitez pas. Et puis on prend rendez-vous avec des guides naturalistes qui vous accompagnent, qui vous décrivent aussi ce qu'on voit, parce que il faut quand même avoir une bonne connaissance de ces milieux pour se rendre compte de la richesse qui est là sous nos yeux.
Ah oui, et puis c'est un jeu de détective. Enfin, moi j'adore ça personnellement, mais c'est quand même très très amusant d'essayer de voir à partir de tel indice, un bout d'arbre rongé, d'où il vient, qu'a fait le castor, est-ce que c'est le courant qui a amené cette branche, est-ce que le castor en a fait quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé. Et on peut comme ça faire parler toute la vie de la rivière juste en lisant les traces au bord de l'eau.
Très bien, merci beaucoup Pierre Rigaud. Donc si vous souhaitez participer au printemps des castors, rendez-vous sur le site de la SFEPM, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères.